Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
J'étais fauché. Fallait que je travaille. C'est pour ça que j'ai pris la route de Salina.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la folie au cinéma, avec trois films mettant en vedette l'iconique Mimsy Farmer, à savoir Le Parfum de la Dame en Noir, un film de 1974 de Francesco Barilli, paru chez Artus Film, La Traque, un film de 1975 de Serge Leroy, sorti chez Le Chat qui Fume, et La Route de Salina, un film de 1970 de Georges Lautner, paru chez Studio Canal dans la collection Make My Day de l'ami Jean-Baptiste Torré. Également au programme, les trois premiers longs-métrages de Roman Polanski, réédités en Blu-ray par Carlotta Film, à savoir Le Couteau dans l'eau de 62, Répulsion de 65 et Cul-de-sac de 66. Et puis nous parlerons aussi de Cérémonie secrète de Joseph Losey, un film de 1968 sorti chez Elephant Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibault, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. À mes côtés, pour causer folie au cinéma, j'ai ramené une bande de doudingues. Voilà. Enfin, une bande. À nous trois, on est trois. Bon, ça fait une bande hein, quand même, hein, trois. Alors, il y a John Ferré, dit l'homme mystère, un libraire fou. Qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du Labyrinthe à Amiens. Hi John!
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Thomas, salut Jérôme.
Également présent dans ce studio, il est hirsute, il est poilu, il fait très peur. Il s'appelle Thomas Roland, dit le loup-garou picard, et chaque nuit de pleine lune, il enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas!
Salut GG, salut John, et bien évidemment, salut à toutes!
Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film, qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Afin de vous encourager à découvrir ce nouveau MOOC, nous vous invitons, lors de chaque épisode de Culture Prohibée, à rencontrer un de ses membres. Cette semaine, c'est Dominique Legrand qui s'y colle. Dominique Legrand, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Bonjour, eh bien voilà, je m'appelle Dominique Legrand, je suis romancier, enfin écrivain romancier. Voilà, j'ai écrit une douzaine de romans à peu près, des romans adultes, quelques thrillers, et puis aussi des romans jeunesse qui traitent de de problèmes parfois de société, hein, comme le précédent sur la maltraitance animale. Et là, je sors bientôt un roman, un thriller qui sort au mois de mai, qui s'appelle Paradise Island. Voilà, j'écris aussi beaucoup sur le cinéma. J'ai écrit sur Brian De Palma, sur David Fincher, sur Toby Hooper, sur Roman Polanski. Et je prépare actuellement un livre sur Nicolas Roeg pour l'année prochaine.
Pouvez-vous nous présenter votre travail au sein de Prime Cut ?
Alors, au sein de Prime Cut, je vais m'occuper essentiellement d'une chronique qui sera consacrée aux animaux. C'est une chronique qui reviendra donc à chaque numéro, qui sera récurrente, qui s'appellera « Les bêtes s'éveillent ». Qui sera consacré à la représentation en fait, du monde animal dans le cinéma. La première chronique sera sur les animaux présents dans les films de Dario Argento. Et puis, en dehors de ça, je pense que je ferai quelques petites chroniques au fil des numéros, soit sur des sorties de Blu-ray, soit pour chroniquer des livres sur le cinéma, soit peut-être pour écrire sur un des réalisateurs qui sera mis en lumière dans un des numéros.
Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous rappelons que pour souscrire à cette revue, il vous suffit de vous rendre sur the-extasy-off-film-au-pluriel.com ou de l'acheter chez votre libraire.
Lee Marvin, Gene Hackman, together their murder in Prime Cut.
Mon cher John, je crois que tu veux nous emmener en balade sur la route de Salina. En compagnie de Robert Walker Jr. qui se promène et qui est un hippie un peu, voilà, et qui va arriver dans une maison un peu isolée, un peu perdue, donc sur la route de Salina. Et il va y rencontrer une vieille dame, hein, qui tient cette maison, qui est une sorte d'auberge, bar, voilà. Enfin bon, on peut se poser, rester quelque temps. Et il est accueilli à bras ouverts par cette femme qui semble le connaître, hein, c'est assez étrange. Et cette femme a une jeune fille qui est campée par la belle Mimsy Farmer, qui est elle aussi, avec qui il va tout de suite, très rapidement, nouer une étrange relation aussi. On va avoir un film assez étrange, un sacré film sur la folie d'ailleurs, qui est le premier aujourd'hui dont on va parler, un peu avec notre belle Mimsy Farmer qui a vraiment été, on peut le dire, durant une grande partie de sa carrière, cantonnée à des rôles de femmes un peu timbrées quand même.
Oui, tout à fait, un peu timbrées, mais c'est l'une des originalités aussi du film. Et ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que dans cette émission-là, on va aborder la fameuse route de Salina, mais on va aussi aborder Salina secrète. Et le lien entre les deux, c'est que toujours on pense avoir quelqu'un en face qui n'est pas cette personne-là. Donc c'est assez étrange et c'est ce qui arrive à la très belle encore. Qu'est-ce qu'elle est merveilleusement filmée, Rita Hayworth, dans ce film, où lorsqu'elle voit le héros débarquer comme ça, elle pense dur comme fer que c'est son fils. Et donc l'illusion va prendre, le personnage va sûrement profiter très clairement de cette confusion, mais va se retrouver en même temps embarqué comme ça dans une sorte de voyage dans la mémoire. Alors moi j'étais très étonné en fait, je me suis toujours dit c'est vraiment dommage que Georges Lautner n'ait pas eu d'autre occasion de faire des films, parce que je trouve que ce film-là sort évidemment de toute sa filmographie et de son habitude comme ça de filmer des comédies populaires ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un vrai propos d'auteur dans ce film-là, une BO qui a été reprise mais qui est vraiment très belle, et il y a un côté comme ça très libertaire, très hippie qui se distille pendant tout le film. Mimsy Farmer est à son habitude très belle, c'est un peu une sorte de road movie mental comme ça, où on va voyager entre les délires d'une mère, on approche même d'ailleurs assez insidieusement entre, normalement si on prend l'histoire, entre une sœur et son frère qui vont être ensemble, donc il y a aussi ce discours là.
Tu peux le dire, John, une relation incestueuse est plus que suggérée.
Et oui, tout à fait, et plus que suggéré. Donc voilà, Lautner nous emmène vraiment dans un terrain dont on n'a pas l'habitude de voir dans sa filmographie. C'est pour ça que je regrette vraiment qu'il n'ait peut-être pas eu plus de temps ou plus d'argent ou je ne sais pas trop quoi pour nous proposer encore des films encore dans cette veine-là, parce que c'est très étonnant de sa part. Moi, je sais que j'ai toujours été étonné par ce film-là, qui plus est la copie de la collection Make My Day rend vraiment hommage à tout ce décor naturel de film. Je crois que c'est filmé en Espagne, à mon avis. Et voilà, c'est un film très étonnant. Et Mimsy Farmer est encore très très belle dans ce rôle-là.
En fait, s'il n'a pas continué dans cette veine, Lautner, c'est simplement parce que le film a été démonté dans sa sortie. Il a été très mal accueilli, il n'a pas été bien accueilli ni par le public ni par la critique. Le film a gagné aujourd'hui ses jalons d'œuvre un peu culte par rapport à ça. C'est vrai que c'est un beau film, hein, plastiquement parlant. Enfin, c'est un film assez envoûtant, très sensuel, je trouve, très charnel. C'est un film, presque un film érotique, hein, d'ailleurs. Il y a énormément d'érotisme dans le film. Hein, voilà. Et le film a complètement dérouté à l'époque. Il n'a pas du tout fonctionné. Voilà. Et donc, Lautner est revenu faire ce qu'il savait faire. Après, il est content. Il voulait filmer Rita Hayworth. Il a filmé Rita Hayworth. Voilà. Et comment dire, alors, on peut aussi, tu as parlé de la BO, on peut aussi peut-être parler de la photographie de Maurice Fellous, qui est magnifique. Voilà. Où il y a ce bleu éclatant là, ce soleil, on sent cette chaleur écrasante en regardant l'image. Voilà, on a chaud avec les personnages, quoi. Voilà, c'est assez impressionnant. Non, je trouve que c'est un film. Alors la comparaison avec le lien avec Cérémonie secrète, pour moi, il est évident, quoi. Hein. Il est évident. Alors ça raconte pas vraiment la même chose, Cérémonie secrète, puisque c'est l'histoire d'une prostituée qui se rend sur la tombe de sa fille, c'est Elizabeth Taylor, et elle se rend sur la tombe de sa fille. Elle est suivie par Mia Farrow, hein, une étrange jeune fille, hein, qui l'entraîne dans sa demeure, et elle lui affirme qu'elle est sa mère, Margaret, supposée morte. Voilà. Et ben, Elizabeth Taylor se laisse prendre au jeu, et ça devient quasiment un huis clos avec un Robert Mitchum. Mitchum, la classe incarnée, voilà, assez particulier, dans un rôle assez singulier. C'est un film de Joseph Losey, un film de 68. C'est important de le préciser parce que le film de Lautner est fait deux ans après. Moi, je trouve que c'est, pour moi, c'est pas innocent. Hein, voilà, je pense qu'il a vu le film de Losey et qu'il s'est imprégné du film de Losey, puisqu'on retrouve cette même ambiance avec les faux-semblants, cette ambiance vénéneuse. Bon, l'érotisme est moins poussé dans le film de Losey, qui s'intéresse plus à ce qui le fascine, c'est-à-dire les rapports de domination, la soumission, voilà, la lutte des classes. Voilà, ça, c'est quelque chose qui le passionne, Losey. Donc, on a plus ça dans Cérémonie secrète. Mais vraiment, pour moi, il y a un vrai parallèle entre les deux films, dans la manière dont ils sont construits et dans le fait qu'effectivement, il y a une... C'est des films sur la folie, hein, quand même. Hein, voilà. Ce sont des quasi-huis clos. Voilà. Parce qu'ils partagent ça avec La Route de Salina. C'est-à-dire que La Route de Salina, on n'est pas en huis clos. Pourtant, c'est tellement oppressant qu'on a toujours l'impression d'être dans une sorte de huis clos, même un huis clos à ciel ouvert. Il y a ça aussi dans le film de Losey, hein, qui n'est pas tout le temps enfermé, en fait. Mais on a l'impression d'avoir vu un huis clos quand le film est terminé.
Il y a surtout ça, parce que la maison est un des personnages aussi principaux dans le film de Losey. Et Losey a, je trouve, eu le coup de génie de prendre, par exemple, une Elizabeth Taylor. Parce qu'il la met totalement à contre-emploi, et ça rajoute encore plus au côté étrange du personnage. On a la première scène du début de Cérémonie secrète, c'est incroyable, il n'y a aucun dialogue, et on sent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Losey distille pendant tout son film ce côté très étrange, de par ses cadres, de par une certaine absence de musique, ou quand elle n'est pas là, elle est juste un peu atonale ou quoi que ce soit. Mia Farrow est hallucinante dans ce rôle-là, parce qu'on sent vraiment la folie. Pour arriver à un moment où, moi, je trouve, ça côtoie peut-être même le film d'horreur sans vraiment en être un, et c'est là où il est force, c'est quand elle fait croire qu'elle est enceinte, et alors que ce n'est qu'une peluche à l'intérieur de son soi-disant ventre. Et Elizabeth Taylor va déchirer cette peluche d'une manière très violente. Et là, on a vraiment quelque chose... Enfin, on sent qu'on touche à chaque fois du doigt cette folie, il y a toujours des décalages. C'est toujours décalé. Il y a un truc.
Et je trouve que ces deux films partagent aussi quelque chose. C'est une approche de la folie, mais ça reste subtil. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des personnages qui vont cabotiner, qui vont... Voilà. Et moi, je trouve que Mimsy Farmer, dans le film de Lautner, elle a vraiment de la subtilité dans son jeu. Je trouve que c'est une actrice un peu sous-estimée. Alors, elle jouit d'un certain culte quand même, hein, avec le mort de Barbet Schroeder, tout ça et tout. Mais on l'a fait beaucoup jouer des rôles un peu de victime ou de femme un peu folle, comme ça. Et je trouve que c'est une actrice, elle est subtile, quoi. Elle a quelque chose, elle fait passer quelque chose dans le regard. Voilà, rien qu'avec ses yeux, on comprend qu'à un moment dans le film de Lautner, Et Pharo est pareil, hein, Mia Pharo. Hein. C'est-à-dire que rien qu'avec ses yeux, dans le regard, on comprend qu'elles sont folles, quoi. Voilà, en fait, qu'elles sont dingues. Et moi, je trouve ça assez fort quand même, hein, parce que y a un sacré boulot derrière.
C'est pas facile non plus de jouer la folie à l'écran. C'est pas évident. Soit on en fait trop, ou soit sinon on n'en fait pas assez. Mais pour être, justement, comme tu dis, subtil, il faut avoir quand même un certain aplomb, quoi.
Les deux films sont aussi des films sur le deuil impossible aussi, quelque part. Le deuil impossible et sur la solitude. Bon, la solitude, ça peut évidemment mener à la folie, hein, mais ce sont aussi des films là-dessus. Et c'est vrai que La route de Salina, dans la filmographie de Georges Lautner, fait office un peu de films beaucoup plus personnels que les autres. Bon, je retiens aussi des films un peu plus personnels de lui, mais bon, pas aussi originaux que celui-là, Le Septième Juré ou encore Le Pacha, où il impose quelque part un style, hein, il impose des choses. Mais là, dans La route de Salina, en le revoyant, je me dis, ah, quand même, il y a des moments, c'est à la limite du film expérimental, quoi. La façon dont il a de filmer les vagues, la façon qu'il a de jouer avec les filtres, avec la musique, c'est de Christophe, je crois, la musique, hein, avec la musique de Christophe. Ah, c'est vraiment un film que j'ai redécouvert, en plus dans une très belle copie. Hein. Et c'est vrai que il est dommage que Georges Lautner n'ait pas pu avoir une carrière plus, n'ait pas pu faire des films comme il voulait les faire plutôt que dans les années 80 s'abîmer dans les belmondoseries comme ça a été le cas.
Écoutez Culture Prohibée. Autre film avec Mimsy Farmer, où là c'est pareil d'ailleurs, on peut dire qu'il y a, il y a le thème de la solitude et de la folie encore. Alors moi je suis très content qu'il soit sorti, hein, ce film qui est sorti chez Artus Film. Un film à mi-chemin entre, on va y revenir, hein, Polanski. Hein. Polanski c'est presque un genre à lui tout seul de cinéma, quand on dit Polanski d'ailleurs. C'est un tel génie que, n'en déplaise à certains, hein, je suis désolé, hein, ça reste un génie, hein, un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Et c'est un tel génie qu'il a quasiment un genre qui porte son nom. Hein. On dit d'ailleurs que certains films sont polanskiens. Je pense que celui-là est un peu polanskien. Voilà. Et Francesco Barilli, qui est totalement méconnu, qui est pourtant qui a aussi fait Pensione Paola, qui est aussi un film extraordinaire, ça, il faudrait le sortir aussi, ça, voilà. Et qui est un réalisateur italien qui est méconnu, il est totalement oublié. C'est un réalisateur passionnant, passionnant. Et Le Parfum de la Dame en Noir, film de 1974, mais également en vedette, évidemment, Mimsy Farmer. Et c'est l'histoire de Mimsy Farmer, qui est une chimiste, hein, qui consacre beaucoup de son temps à son travail. Et elle habite seule dans un grand appartement à Rome, dans un immeuble qui pourrait rappeler d'ailleurs aussi celui du locataire, hein, de Polanski. Voilà, encore et toujours Polanski. Voilà, où les colocataires, ses amis et tout, ont tous l'air à la fois très sympathiques et très étranges. Voilà. Et elle fréquente en fait Roberto, avec qui elle se rend un soir dans une réception avec un professeur africain qui est là et qui lui parle de magie noire, qui lui parle de rituels, voilà. Et ça semble beaucoup l'affecter, cette jeune femme. Elle s'appelle Sylvia dans l'histoire, hein, le personnage de Mimsy Farmer. Et elle commence à avoir des hallucinations, à voir sa mère qui est décédée lui apparaître, une petite fille aussi, voilà. Et petit à petit, tout devient oppressant. On sent qu'elle bascule de plus en plus dans la folie. Il y a une de ses voisines, Francesca, qui est une amie à elle, mais qui en même temps qui a un comportement un peu étrange, hein, voilà, qui meurt d'une crise cardiaque dans son bain. Donc elle est sûre, Mimsy Farmer, à partir de là, elle est sûre, elle commence à plus aller au travail, tout ça, elle bascule dans la folie vraiment. Elle est sûre qu'il y a un complot criminel autour d'elle et qu'elle va finir par se faire tuer, voilà. Et à partir de là, dès le début, le film est dans une ambiance étrange, et puis petit à petit, l'ambiance de folie va s'accentuer comme ça, ce qui fait qu'on a un film qui est à la fois polanskien, qui est à la fois et parfois classé dans le giallo, parce que ça peut être vu comme un giallo de machination, hein, voilà, puisqu'il y a une machination dans cette histoire, mais en même temps, on a surtout un film inclassable en vérité, John.
Tout à fait inclassable, et c'est d'ailleurs un film qui n'a pas de genre, qui est multigenre. On voit ça par rapport à tout ce que va être l'histoire. Mais Francesco Barilli, alors moi je ne savais pas, c'était un peu intéressant, c'est aussi le scénariste de Qui l'a vu mourir, le fameux giallo d'Aldo Lado. Alors ça, rien que déjà ça me faisait plaisir. Mais là voilà, merci Artus, merci du fond du cœur d'avoir enfin sorti Le Parfum de la Dame en Noir. Donc là, Francesco nous livre un film en fait aux multiples influences. Il est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à Rosemary Baby, on ne peut pas s'empêcher à penser à Répulsion, et d'ailleurs on va en parler, film réalisé en 1974. Mais c'est un film où c'est marrant le contraste qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'on va avoir des intérieurs des fois colorés. Les flashbacks sur sa mère sont assez grinçants d'ailleurs, parce que c'est très doux, c'est très posé, mais le propos est tellement, je ne sais pas si on peut dire ordurier, mais elle a vécu un trauma d'enfance qui quand même n'est pas facile, mais ça, je vous laisserai le découvrir. Les apparitions, alors c'est là où le film va aller dans le côté fantastique, c'est-à-dire qu'on va avoir les apparitions d'une petite fille, d'elle-même en petite fille. On va avoir comme ça les apparitions de sa mère, on va avoir des scènes qui peuvent être choquantes, où l'on voit, alors je ne sais pas si c'est son père ou l'amant de sa mère, je pense que c'est plutôt l'amant de sa mère, et on va comprendre la finalité en fait de ce trauma. Et surtout, c'est un film qui ne vaut que pour la dernière, c'est le final, qui fera basculer le film totalement encore dans un autre genre. C'est pour ça que, je ne sais pas si on peut dire de ce film qu'il appartient au giallo, qu'il appartient à l'horreur, qu'il appartient au fantastique, qu'il appartient au film gore, il appartient à mon avis à tout ça. Donc voilà, il faut vraiment le voir, parce qu'il casse les codes du genre du cinéma, et il est porteur aussi d'une mélancolie.
On en profite pour faire un parallèle aussi avec la ressortie chez Carlotta en Blu-ray des trois premiers films de Polanski, hein. Trois premiers longs métrages, je précise, hein, parce qu'il y a des courts métrages. D'ailleurs, il y a pas mal de bonus, hein, où on peut retrouver les courts métrages de Polanski dans ces éditions qui sont très complètes, hein, quand même. Et donc on retrouve les trois premiers films de Polanski. Il y a son premier long métrage dans ce qui a été ressorti, qui est Le Couteau dans l'eau, hein, qui raconte, c'est un couple qui part en croisière sur leur bateau, sur leur voilier, et puis ils prennent en stop un jeune étudiant qui va être un peu l'ange de la mort, hein, qui va les accompagner, en tout cas qui va être un type étrange, au comportement étrange, mais on ne sait pas qui est étrange, est-ce que c'est eux. Enfin, déjà, il y a une sorte de triangle qui se met en place. Il y a tout le cinéma de Polanski qui est là, hein, c'est vraiment assez brillant. Et puis il y a Cul-de-sac aussi. Alors Cul-de-sac, je vais le mettre un peu à part, parce qu'il est un peu, il est un peu différent avec Françoise d'Orléac et Donald Pleasance qui forment un couple comme ça, qui vivent un peu isolés sur une île, mais où il est question aussi de domination et de trauma, et voilà des thèmes qu'on va retrouver aussi dans Répulsion, qui lui, dont on va beaucoup plus parler, Répulsion, puisqu'il se rapproche énormément du film de Barilly. Et Cul-de-sac, c'est une sorte de comédie très barrée, très étrange, où en fait, il y a des brigands qui vont arriver et qui vont se mettre à squatter cette maison isolée, ce manoir où vivent Françoise d'Orléac et Donald Pleasance, qui sont un couple assez étrange, où il y a un rapport de domination entre eux qui est assez bizarre. Et c'est un film fait avec Gérard Braque, hein, qui était déjà avec lui sur Répulsion. Hein, et ça donne vraiment, vraiment un film... un film à part, à la fois drôle, cruel, très étrange, très poétique aussi. Il y a des scènes avec la marée où on est dans quelque chose de très poétique. Mais c'est vraiment un drôle de film. Et puis, alors peut-être Thomas, tu veux peut-être parler du Couteau dans l'eau aussi. Toi, je sais que c'est un film que tu apprécies aussi.
Effectivement, tu disais le Couteau dans l'eau, c'est un film assez étrange. Hein, tu parlais d'Ange de la mort à propos de cet adolescent qu'ils prennent en stop et qu'ils invitent à venir faire la croisière avec eux, hein, sur leur petit voilier. Hein, c'est un petit voilier. Hein, finalement, c'est vrai que qui est le plus bizarre parmi ce triangle entre, est-ce que c'est l'homme à qui appartient le voilier? Est-ce que c'est la femme qui l'accompagne? Est-ce que c'est l'étudiant? Mais finalement, les choses vont bouger au fur et à mesure que le film avance. Hein. Les choses ne sont pas figées. Et on va découvrir que les personnes les plus barrées, ce n'est pas celles que l'on croit. Et qui ont surtout des choses peut-être à se reprocher aussi.
Ouais, c'est aussi un film... en fin de compte, ce film, c'est aussi un des films les plus politiques de Polanski. Puisqu'après, ces autres films vont être moins politiques. Parce que là, il y a clairement deux mondes qui se rencontrent quand même. Hein. C'est assez clair. On sent le jeune élève un peu appliqué quand même de l'école de Lodz, qui fait un premier long métrage qui est plus... Il essaye plus de faire, je pense, quelque chose de très carré, de très stylisé. Mais il y a Polanski, quoi. Et donc, à un moment, tu as raison, ça commence à basculer dans un thriller un peu étrange. Et de ce postulat, donc, plein de réalisateurs auraient fait certainement un truc fort sympathique avec un triangle amoureux et l'un des deux amants qui dit « on va éliminer l'autre » et tout. Alors là, c'est pas du tout ça qui se passe. Il se passe autre chose. Pourtant, c'est un film qui a aussi ses moments sensuels. Hein. Mais il se passe pas du tout ça. Comme un peu cul-de-sac. Hein. Il se passe jamais. Voilà, vous pouvez penser que ces brigands qui arrivent dans la maison, là, ils vont faire subir le pire à ce couple. Et en fait, non. Et d'ailleurs, les femmes sont fortes aussi dans ces films. C'est caractéristique du cinéma de Polanski. Et là, d'Orléac, par exemple, dans Cul-de-sac, elle... C'est surtout, c'est elle, l'homme. C'est ça qui est assez excellent. Et elle essaye de... Les apparences sont toujours trompeuses chez Polanski. Et elle essaye... Il y a un brin de folie aussi dans ce film. Hein. C'est aussi un film sur la folie. Il y a une sorte de folie qui gagne tous les protagonistes du film au fur et à mesure que l'intrigue évolue. Et elle aimerait bien que son mari, Donald Pleasance, fasse preuve d'un peu de virilité et aille chasser ses occupants. Voilà. Et ça donne lieu à des scènes assez cocasses, assez étranges. Voilà. Y compris des scènes de travestissement très, très étranges. Mais qui anticipe d'ailleurs aussi ce qui se passera aussi dans Le Locataire. Pour moi, Le Locataire, c'est une pierre philosophale dans la filmographie de Polanski. C'est un film qui est souvent oublié. Et pour moi, c'est un film assez majeur parce qu'il y transparaît vraiment toutes ces thématiques de sa première période, et il annonce sa deuxième période un peu, donc ça me passionne beaucoup. Thank you. vous écoutez Culture Prohibée, spéciale folie au cinéma. Et puis, il y a répulsion. Enfin, je veux dire, répulsion. Forcément, on est obligé de le rapprocher du parfum de la dame en noir. Puisqu'il y a une femme blonde, belle, victime d'un traumatisme, seule dans son appartement, sombre dans une certaine folie, et une folie homicide. Voilà. Et ça... en fait, quand on regarde bien, les films ont un scénario assez similaire, sauf évidemment la deuxième partie du Barry qui va basculer vers autre chose. Mais les films ont quand même un scénario très, très similaire. Je pense que Barry aime vraiment beaucoup Polanski. Et Répulsion, c'est quand même un drôle de film. Ou alors Polanski joue vachement avec les valeurs de plan. Il y a beaucoup de gros plans. Il y a beaucoup de moments très étranges où Deneuve va se retrouver devant une fissure, par exemple, parce que Deneuve, dans ce film, elle campe une esthéticienne qui travaille dans un salon de beauté, et puis qui vit avec sa sœur, qui est incarnée par Yvonne Furneaux, une des femmes fatales, une des vampes de la Hammer Film, hein, voilà. Et elle ne cesse, c'est Catherine Deneuve, hein, donc elle est courtisée, hein, évidemment. Quand vous êtes belle comme Catherine Deneuve, vous êtes courtisée. Donc elle ne cesse de repousser des courtisans, tout ça. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Et elle ne cesse de dire à sa sœur, là, tu vas partir en Italie avec ton amant. Reste, je ne veux pas rester toute seule. Voilà. Bon. On ne sait pas pourquoi. On va tout deviner après. D'ailleurs, c'est brillant parce que le film s'ouvre par un gros plan sur l'œil de Deneuve et se termine par un gros plan sur l'œil de Deneuve à un autre âge. Et rien que par ce plan, on comprend tout ce qui anime, en fait, le personnage de Catherine Deneuve, rien que par un plan. C'est de la pure mise en scène. Voilà. Il y a plein de moments extraordinaires dans le film. Je vais peut-être laisser aussi Thomas en parler, parce que je sais que c'est un... Répulsion, c'est un film qui t'a aussi particulièrement marqué.
Il faut dire aussi que c'est un film marquant. Hein. C'est quasiment un huis clos qui se passe dans un appartement où il se passe plein de choses. Alors bizarrement, ça se passe. Elle est toute seule, mais il se passe plein de choses, des choses étranges. Effectivement, c'est un film qui peut préfigurer aussi Le Locataire, hein, parce que elle a des visions. Elle est attaquée par des hommes. Enfin, un homme qui revient régulièrement. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? On ne sait pas trop, etc. Et c'est un film. C'est un film assez malaisant. C'est un film claustrophobe. Hein, et c'est un film qui interroge aussi. Quelque part le personnage de Polanski, parce que quand on regarde bien et Le Couteau dans l'eau et Répulsion et d'autres films de Polanski par la suite, hein, je pense à la Vénus à la fourrure par exemple, il ne cesse de tourner en dérision la masculinité, le virilisme, la virilité. Il ne cesse de faire ça, ce qui pose question par rapport à ce qu'il a fait, ce qui a été reconnu, jugé, etc. et ce dont on l'accuse. Quelque part, il y a une dichotomie entre la réalité et les fictions qu'il met en scène. Donc c'est quelque chose qui est très récurrent chez lui et qui, moi, m'interroge beaucoup sur son cinéma, parce que en fait, son cinéma ne parle quasiment que de ça. À part la folie et la paranoïa aussi. Ghostwriter, c'est la paranoïa. Hein. C'est quelque chose qui revient souvent chez lui, la paranoïa. D'ailleurs, dès Le Couteau dans l'eau, c'est là. Hein. Qui est qui, c'est pas vraiment ça, mais qui n'est pas clair dans le film, dans Le Couteau dans l'eau, entre l'étudiant, le mari et la femme, qui n'est vraiment pas clair, quoi, quelque part. Et donc, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez lui. C'est la façon dont il met en scène les femmes, notamment cette femme dans Le Couteau dans l'eau, qui finalement, c'est elle qui mène la danse, quelque part. tout du moins à la fin.
Comme souvent, hein, comme souvent chez Polanski. D'ailleurs, là, c'est une particularité parce que dans ce film, parce que tu l'as pas dit aussi, mais bon, c'est un film qui, dénonce aussi, enfin dénonce, peut-être pas le mot, mais enfin l'état de fait de Catherine Deneuve, qui d'ailleurs livre une sacrée performance à l'époque. Je pense que c'est un de ses premiers grands rôles comme ça où elle porte le film sur ses épaules quand même. Hein. Dénonce avec virulence, si c'est le terme, dénonce avec virulence quand même ce qu'on peut faire subir aux enfants, aux jeunes filles, et en particulier en termes de violence sexuelle quand même. Voilà. Et la vie de cette fille est brisée par ça. Voilà. C'est vachement troublant en fait, hein, quand même. Hein. C'est très troublant. Très, très troublant par rapport à la vie de Polanski, à tout ça. C'est vraiment très troublant. Moi, la première fois que j'ai vu ces films-là, vu que bon, il n'y avait pas toutes ces histoires autour de Polanski, là, voilà, parce que moi, je parle de cinéma, voilà, je ne vais pas parler de tout ça, quoi, mais on ne peut pas s'empêcher, quoi. Voilà, c'est compliqué de mettre ça de côté quand on voit ces films, quand on les revoit, puisqu'on a de cesse de revoir les films de Polanski, parce qu'il faut le voir, il faut les voir, il faut aller les voir en salle. On avait ardemment défendu dans cette émission le fait d'aller voir en salle son J'accuse, fabuleux film, excellent film, hein, voilà, sur l'affaire Dreyfus, et où effectivement il y avait encore dedans, hein, cette paranoïa, cette folie, qui sont des choses toujours prégnantes dans son cinéma. Et c'est vrai que c'est un film particulièrement troublant. Et en fait, Polanski, il a peur de rien, quoi. C'est ça qui est génial dans son cinéma. Il a même pas peur de basculer dans le grotesque au sens noble du terme, hein, avec des effusions gore, avec des moments étranges, des personnages, ce personnage de proprio libidineux aussi, qui sont presque des caricatures d'ogres, des méchants sortis tout droit d'un conte pour enfants, parce que les contes, ça fait flipper quand même, hein, ça rigole pas beaucoup les contes, hein, quand on réfléchit bien, on raconte des trucs horribles à nos enfants en fait. Donc, et c'est quand même, moi je trouve ça très très fort, et effectivement, il y a un vrai lien pour moi avec le film de Barilly, dans le sens où dans le Barilly, on est aussi dans l'univers du mythe, de la légende, du conte, avec tout ce délire autour du vaudou, tout ça, enfin tout ce délire-là qu'il y a dans le Barilly, là, avec ce sorte de culte étrange, là. Alors, je ne vais pas révéler la fin du film, hein, mais qui est quelque chose d'assez troublant aussi. Bon, je trouve que Polanski, c'est au-dessus, quand même. Hein, voilà, je trouve que Polanski, c'est au-dessus. Mais le film de Barilly est quand même un grand film, hein, parce que... Et incompréhensiblement, un film totalement méconnu. Voilà. Donc, et je trouve que vraiment, il y a des liens indéniables entre les deux cinémas.
How can there be a virgin isle with dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo, dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo, swing it. We'll be right back. I'm so very dig-a-dig-a-doo by nature. If you don't say dig-a-dig-a to your mate, you're gonna lose your pop. So let those funny people smile. How can there be a virgin isle with dig-a-dig-a-doo, dig-a-doo-doo?
Écoutez Culture Prohibée, spéciale folie au cinéma.
Et la figure du viol, elle occupe aussi, d'ailleurs, le dernier film dont on voulait parler, avec Mimsy Farmer, qui est La Traque. Alors, qui est moins un film sur la folie, mais peut-être une folie collective qui serait une folie qui naîtrait, en fait, parce que là aussi, le virilisme, le machisme, mais dans la question de la défense d'une certaine classe. Et là, on a une bourgeoisie de province, voilà, qui va défendre sa classe. C'est-à-dire qu'il y a un député, il y a des gens bien, il y a un médecin, je crois, enfin bon, voilà, il y a des gens bien. Ils partent chasser comme tous les week-ends, c'est hop, on se saoule la gueule et tout ça. Et dans la bande, il y a des ferrailleurs qui sont des gens un peu, voilà, un peu prolo, un peu bas du front. Mais on a besoin d'eux pour faire les basses œuvres quand même, quand on est un homme politique. On a besoin d'eux, donc on laisse un peu passer pas mal de choses. Alors le casting est dément, hein, voilà. On va avoir Jean-Luc Bidault, qui est le gendre d'un sénateur, qui rêve. Parce qu'il apparaît être le moins salaud, Jean-Luc Bidault, dans le film. Puis en fin de compte, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est un putain de salaud, parce que, en fin de compte, par ambition, il est prêt à tout. Il y a Michael Lonsdale, qui lui est un riche propriétaire terrien, et Michel Constantin, capitaine Nimi, un ancien militaire. Jean-Pierre Marielle, qui est le ferrailleur. Bien sûr, Jean-Pierre Marielle, pour jouer le ferrailleur. Voilà, on pouvait pas rêver mieux. Philippe Léotard, qui est le frangin de Marielle, qui est complètement starbé, mais en même temps, Léotard, dès qu'on le voit dans un film, on se dit, qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà. Enfin bref, il y a toute une équipe, comme ça. Moi, j'aime bien aussi, il y a Michel Robin, qui fait un petit assureur, là, et Michel Robin, j'aime bien cet acteur de second rôle français, parce qu'il a l'air fourbe. Et là, il est fourbe, il est veule. Il est tout à fait à l'image de son physique, voilà. Et derrière la caméra, il y a Serge Leroy. Serge Leroy, c'est un excellent metteur en scène français qu'il faudrait réhabiliter, qui est méconnu, voilà, Légitime violence, enfin, on a déjà beaucoup parlé de Serge Leroy dans l'émission, moi j'aime beaucoup Serge Leroy, voilà. La Traque, c'est son chef-d'œuvre, il faut dire ce qui est, et donc ça raconte quoi? Eh bien, il y a Mimsy Farmer, parce que c'est quand même Mimsy Farmer le fil conducteur de cette émission, Mimsy Farmer qui débarque là à la campagne, c'est une jeune universitaire cannaise, mais elle est anglaise, elle s'appelle Helen Wells dans le film, et puis elle va tomber sur cette bande de chasseurs, et là, ben, il y a les ferrailleurs qui vont la violer, voilà. Les ferrailleurs vont la prendre à part, vont la violer. Et quand le reste du groupe va découvrir tout ça, chacun pour protéger ses ambitions, sa réputation, ils vont décider de la traquer. Et ça donne un film qui est particulièrement traumatisant et qu'on attendait depuis très longtemps dans une belle copie. Là, bon boulot du chat qui fume. C'est vraiment un film, on l'avait tous vu à la télévision, je pense, avec le carré blanc à l'époque, quand on était gamin. On passait quand même des trucs de ouf à 20h30 hein, à l'époque. Je veux pas dire, mais j'ai vu Possession aussi de Zulawski à 20h30 avec le carré blanc. Hein. Là, ça rigolait pas, c'était FR3. Hein, voilà. Donc on se marrait pas beaucoup, mais nous on voyait des trucs de dingue quand même. Voilà. Il n'y avait pas les petits trucs moins de 12 à l'écran. Hein. On rigolait pas avec ça à l'époque, on s'en foutait. On mettait un carré blanc, ça voulait dire t'es l'enfant, t'as pas le droit de regarder, c'est tout. Voilà. Et ça donne quand même un film traumatisant, John.
Super traumatisant. Et surtout Serge Leroy, un talent énorme pour placer ces personnages dès le début du film, ne serait-ce que dans la poursuite où à un moment les ferrailleurs arrivent en voiture, ils font une sorte de course, ils font une sorte de petit truc comme ça sur la voiture. On sait déjà qui sont ces gens-là, on sait déjà comment ça va se passer et on sait déjà que ça va pas être simple, et voire même il est très traumatisant dans le sens où il va aller jusqu'au bout de son propos. C'est-à-dire que ces chasseurs qui, vont aller jusqu'au bout et chasser cette femme comme un animal. Et la dernière scène est pour ça assez hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a une mise à mort de Mimsy Farmer qui est à l'image d'une mise à mort d'un cerf ou d'une biche que ces gens-là peuvent avoir. Donc il y a vraiment tout ça. Il dépeint l'humain avec tous ses travers, comme ont pu faire de très grands auteurs. Donc il arrive à dépeindre l'hypocrisie, il arrive à dépeindre le fait de vouloir bien se mettre avec du monde, quand les réalités sociales prennent le pas sur le sentiment. Il arrive à rendre tout ça à l'image. Et c'est là où le film prend vraiment tout son essor. Parce que Mimsy Farmer est vraiment la victime de ça. Léotard, bien sûr, est hallucinant. Enfin, je veux dire, c'est un film, moi, qui me met très mal à l'aise parce que on sent que ces gens-là ont peut-être déjà rencontré dans sa vie, ou tout du moins, on identifie tout de suite le malaise qu'il y a. On identifie tout de suite les sentiments de chacun. Donc c'est pour ça que ça se rapproche pour moi vraiment du réel. Et c'est en cela que ce film-là est vraiment traumatisant.
Ces gens se tiennent par les couilles. C'est une classe. C'est le portrait d'une classe. D'ailleurs, ça ne m'aurait pas étonné que le film soit de Chabrol. Voilà, il a un côté très chabrolien, ce film, dans sa peinture d'une petite bourgeoisie de province. C'est tous ces gens derrière leur vernis qui sont des ordures. Et en plus, c'est très fort parce que ce n'est pas caricatural. C'est vachement bien, parce qu'enfin c'est assez subtil. D'ailleurs, au début, Bido, il est plutôt sous le charme, parce que c'est un tombeur, Bido, hein, dans le film. Hein. D'ailleurs, il couche avec la femme d'un de ses meilleurs amis, ça ne le gêne pas du tout. Hein. Et Bido, il est un peu sous le charme de cette Ellen Wells, Mimsy Farmer. Au début, il l'aide, il l'emmène d'un point A à un point B, voilà. Et déjà, il rencontre ces ferrailleurs, on se rend compte que ce n'est pas une relation normale, parce qu'il commence à taper sur la voiture, enfin, moi, je te fais ça, je pense que tu me fais la gueule pendant 6 mois, John. Voilà, hop, je te rentre dedans, je te bousille ta bagnole, tout ça, puis on se marre bien. Voilà, voilà. Tout de suite, on sait qu'on est confronté à des types qui ont des comportements quand même assez anormaux. Voilà, enfin, en tout cas, pas dans la bienséance, quoi. Voilà, ça, c'est sûr. Et je trouve que le choix de Mimsy Farmer est très bien. Alors, pour une fois, elle joue pas une folle, mais son regard de biche, comme ça, son visage. Est employé, je veux dire, à la perfection, puisque elle a vraiment voilà, c'est un gibier et elle a ce côté biche, animal effrayé, qui est perdu dans la forêt, dans un endroit qu'elle ne connaît pas en plus et qu'eux connaissent par cœur. Voilà, donc non, franchement, un grand film.
Il est vrai que ça donne une image assez peu reluisante d'une certaine bourgeoisie de province. Mais je trouve qu'il y a encore une chose qui est encore pire, c'est que le personnage de Jean-Luc Bido, lui, c'est un parvenu, en fait. Parce qu'il n'est pas, il ne fait pas partie de leur classe au départ. Il fait partie de leur classe parce qu'il s'est marié avec une femme qui était aisée. Et donc, c'est par là qu'ils le font plus ou moins chanter, là, qu'ils lui font pression pour qu'il soit de leur côté, quoi. Pour qu'ils disent, bah oui, mais toi aussi, t'es dans la merde, en fait, quelque part. Et je trouve que le film, par là, le fait que ce personnage, qui au départ est plutôt a plutôt de bonnes intentions, est encore plus noir, parce que ce personnage, finalement, il est corrompu. Il est corrompu par le fait qu'il ne veut pas perdre cette classe sociale qu'il a gagnée par mariage.
I need you.
c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferret, dit L'Homme Mystère, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.